Tira a roupa do varal, tá quente, tá esquisito. Hoje vai ter chuva de levar quintal. Hoje vai ter chuva de levar quintal. Tira a roupa do varal, tá quente, tá esquisito. Hoje vai ter chuva de levar quintal. Hoje vai ter chuva de levar quintal. Isto é coisa de cinema.
À tous et bienvenue sur Micro Littéraire, l'émission littéraire de Micro Rebelle. Vous venez d'entendre un artiste brésilien, Pipo Pegoraro, au travers de deux morceaux de son album Intro. Pipo Pegoraro est un ancien membre des Q-Saliva. C'est un artiste touche-à-tout qui expérimente avec audace tout en revendiquant son identité brésilienne. Ça nous donne un album un peu rock, brésilian, trip-hop. Nous retrouverons Pipo Pegoraro en fin d'émission. Vous êtes bien sur Micro Rebelle, dans notre émission du dimanche matin, Micro Littéraire. Vous en connaissez maintenant le principe. Nous vous présentons un auteur, un de ses livres, et nous vous en lisons quelques extraits, avec l'espoir que vous aurez envie de vous procurer et de lire l'ensemble de l'ouvrage. Depuis maintenant 3 semaines, c'est Betraven qui nous accompagne. Betraven, c'est cet écrivain mystérieux, qui a caché son identité jusqu'à la fin de ses jours. On sait aujourd'hui qu'il a été révolutionnaire en Allemagne, sous la République des Conseils, au début du siècle dernier, sous le nom de Rett Maroth, puis qu'il a fait de la prison en Angleterre, avant de s'embarquer au Mexique, où il a passé toute sa vie sous divers noms d'emprunt, et qu'il a pratiqué toutes sortes de métiers, tout en continuant à envoyer ses manuscrits à son éditeur allemand. Vous retrouverez tout ça en détail sur notre site microrebelle.fr dans la rubrique Micro Littéraire. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont réécoutables et téléchargeables. On revient donc à Betraven, qui reste son nom d'écrivain. Betraven, je vous l'ai dit, vous pourrez, notamment en écoutant la première de nos émissions sur Micro Littéraire, la première de nos émissions consacrée à la révolte des pendus, retrouver quelques éléments de sa biographie tout à fait passionnante. Aujourd'hui, Micro Littéraire vous propose la quatrième et dernière émission consacrée donc à la révolte des pendus, sans doute un des romans les plus puissants de Betraven. On est en 1910, au moment de la révolution mexicaine contre le dictateur Porfirio Diaz. Betraven est au plus près des Indiens du Chiapas, exploités et réduits en esclavage dans les plantations de la caoba, le bois d'acajou qui sert à fabriquer les mobiliers des bourgeois américains et européens. Mais tout ça n'a qu'un temps. Ce prolétariat soumis redresse la tête, commence à se révolter et s'organise pour briser ses chaînes. Je vous renvoie aux trois premières émissions que Micro Littéraire a consacrées à la révolte des pendus. On est donc à la fin du livre. Dans les Monterias, les exploitations forestières, les Indiens se sont révoltés contre leurs patrons et les contremaîtres, les cruels capataces. La troupe des rebelles se met en marche pour rallier d'autres Monterias de manière à faire grossir les rangs des opprimés qui se révoltent. Tout en avançant, les Indiens échangent, se posent des questions. Leur révolte est sanglante. Il y a là un vrai rapport de classe entre les exploités et les dirigeants. L'extrait qui suit évoque ce rapport de force.
Ce n'était pas la faute des rebelles s'ils étaient animés de sentiments de meurtre et de destruction. On ne leur avait jamais permis de s'exprimer ni de se consulter. Personne n'était jamais venu leur enseigner quoi que ce fût en matière politique ou économique. Aucun journal n'avait le droit de critiquer les actes du dictateur. Il n'y avait pas de livre pour enseigner aux travailleurs de quelle façon ils auraient pu améliorer leurs conditions sans meurtre et sans destruction. Ceux qui n'appartenaient pas au groupe du dictateur devaient obéir sans plus. Les ouvriers, les paysans et les petites gens avaient un seul devoir et ce devoir se nommait l'obéissance. On leur inculquait une obéissance aveugle, à coups de fouet, jusqu'à ce qu'elle fût devenue leur seconde nature. Partout où quelques-uns ont tous les droits et où la masse n'a que des obligations qu'il n'est même pas permis de critiquer, le résultat est toujours le même, le chaos inévitable. Ce n'était pas seulement le caudillo qui décrétait. Les grandes industriels, les banquiers, les grands féodaux, les propriétaires fonciers avaient certes le devoir d'assurer la domination absolue du dictateur. Mais ces gros personnages avaient parfois quelque chose à décréter eux aussi. Mais ils n'opéraient pas eux-mêmes. Ils obligeaient le caudillo, le dictateur, à décréter ce qu'ils voulaient. De cette façon, ils pouvaient rançonner le peuple sans attirer les protestations. S'ils avaient décidé eux-mêmes, ouvertement, le peuple aurait pu supposer que la dictature ne servait qu'à remplir les poches des puissants. Mais, comme ils empruntaient le canal du dictateur, les décretos du caudillo passaient pour être pris dans l'intérêt de l'État, et c'est ainsi qu'on endormait les patriotes sincères. Même si les muchachos avaient proposé aux patronesses de discuter pacifiquement avec eux, sur un pied d'égalité, les patronesses auraient répondu à coups de mitrailleuse, car c'est déjà crime d'État que de faire une proposition qui aurait permis aux employeurs et aux salariés d'étudier les questions en suspens. C'était même un crime que d'accorder aux ouvriers le droit de proposer quelque chose. Le travailleur avait le droit d'obéir et de travailler dur. C'était tout. Pour le reste, c'était l'affaire du dictateur et de ses seides. Aussi, le droit de commander et de critiquer n'appartenait-il qu'à eux. Ce n'était donc pas la sauvagerie qui poussait les Indiens à tuer et à piller. Ils ne faisaient preuve de cruauté que parce que leurs adversaires et leurs oppresseurs étaient 100 fois plus sauvages et plus cruels, et uniquement pour sauvegarder leurs intérêts.
La troupe des révoltés continue sa progression. Le chemin est semé d'embûches. Le premier obstacle, c'est la météo. Il faut progresser dans des chemins inondés. On va pouvoir apprécier ici le talent de romancier de Betraven dans sa description à la fois de l'environnement dans lequel progressent les insurgés, mais également dans le récit de leurs hésitations, leurs questionnements.
Un général, véritablement instruit des choses militaires, aurait envisagé la marche projetée avec effroi. Il aurait entrevu tant de difficultés qu'il aurait dit « Oh César, avec les moyens dont je dispose, à peine aurais-je franchi 10 kilomètres que déjà j'aurais perdu plus de la moitié de mon armée. » Il aurait réuni tout son état-major et remanié tous ses plans. Mais Juan Méndez était un général révolutionnaire qui n'avait jamais étudié dans les manuels, dont il ignorait jusqu'à l'existence. Il commandait « Marcha adelante al frente » et son armée marchait comme elle devait marcher. Pendant la saison sèche, une pareille expédition, avec tant d'hommes et tant de bêtes, de sommes, eût été si compliquée que pas un agent recruteur n'eût osé l'entreprendre. Mais en pleine saison des pluies, elle semblait défier la raison. Il est vrai que si les muchachos avaient été des gens raisonnables, ils n'auraient jamais songé à se révolter. Les soulèvements, les mutineries, les révolutions sont toujours déraisonnables en soi, car elles troublent l'agréable somnolence qui porte les noms de paix et d'ordre. Et les muchachos prouvaient ainsi qu'ils n'étaient point de simples grévistes, mais d'authentiques révolutionnaires, car la vraie révolution ne connaît pas d'obstacles. Le rebelle, qui est rebelle par toutes les fibres de son être, marche toujours vers l'avant, et celui qui marche a gagné la partie aux trois quarts. Si l'on avait dit aux muchachos qu'il leur faudrait marcher pendant toute une semaine dans les régions infernales, ils auraient certainement répondu « Cela ne fait rien, nous ne finirons bien par sortir de l'enfer. Et quand nous en serons sortis, nous serons de meilleurs révolutionnaires, meilleurs qu'avant d'y entrer. » Et c'était vrai, l'enfer les attendait. Seulement, ils ne séjourneraient pas une semaine, mais au moins trois. Même les pistes, qui échappaient habituellement à l'inondation, s'étaient transformées en marées larges comme des lacs. Il pleuvait tous les 3 ou 4 heures. C'étaient des fleuves entiers que déversaient les nuages. Ils tombaient avec une telle violence qu'ils creusaient des trous profonds dans les clairières. Les branches des arbres se cassaient comme sous les coups d'un ouragan. Les sentiers s'effondraient, se muaient en gorges, en larges rues. Des blocs de rochers se déchaussaient et dévalaient les pentes, pulvérisant sur leur passage, avec un fracas de tonnerre, les gens de la forêt vierge. Quand les pluies s'arrêtaient pour un instant, l'eau s'introduisait sous les branchages touffus. Puis le soleil luisait, chauffait et transformait la jungle en une étuve qui rendait la respiration affreusement pénible. Et quand les cimes des arbres allaient enfin être séchées, le soleil disparaissait brusquement et des gouttes légères tombaient pendant une dizaine de minutes. C'était l'avertissement, le prélude au nouveau déluge avec accompagnement d'éclairs et de coups de tonnerre. Pour les gens ignorants, toute la saison des pluies pendant la jungle, entreprendre une longue marche sous les bois serait une téméraire aventure. Mais pour les muchachos, qui savaient tous les dangers que signifiait cette marche, c'était la preuve indiscutable qu'ils étaient résolus à supporter les pires épreuves pour mener implacablement jusqu'au bout la révolution qu'ils avaient commencée. Au cours des délibérations, l'un des muchachos avait proposé d'attendre la fin des pluies. « Évidemment, » avait répliqué le professeur, « nous pourrions attendre, mais il y en a qui ne peuvent pas attendre. Ce sont les peones, des fincas, qui veulent être libres comme nous le sommes, qui veulent partir avec nous et lutter pour délivrer leurs frères. » Depuis un certain temps, ce n'était plus tellement le désir lancinant de rentrer chez eux et de revoir leur foyer qui tourmentait les muchachos. Ce désir, il l'avait toujours. Ils en avaient eu un nouveau. Le soulèvement s'était produit et tous les muchachos qui travaillaient dans la brousse avaient rejoint les premiers révoltés. Tous les jours, de nouveaux groupes venaient grossir leurs rangs. Et cette multitude oubliait presque le retour tant désiré au foyer natal pour ne songer qu'à la révolte contre les maîtres et à la délivrance totale. De plus en plus, les muchachos arrivaient avec la conviction qu'une révolte, si elle n'englobait pas tous leurs frères de misère, ne les délivrerait que pour un temps très court. Et cette révolution était due, pour une grande part, au discours habile d'El Professor. El Professor leur avait dit 1000 fois, « Muchachos, si vous vous révoltez simplement, et si vous retournez, vous seuls, dans vos villages pour y cultiver en paix vos 1000 passes et nourrir vos enfants, vous pourrez, en mettant les choses au mieux, récolter 1 fois, mais pas 2. Avant même que vous vous en soyez rendu compte, vous aurez les rurales et les fédérales sur les reins. Vous serez ramené ici, plus esclave que jamais, et cette fois, ce sera pour toujours. Il faut donc que nous fassions une révolution solide et puissante. Et pour cela, nous devons ou bien gagner les rurales et les fédérales à notre cause, ou bien les éliminer. Et il ne faut rien faire à demi, muchachos. Et surtout ne croire à aucune promesse. Dès que vous aurez atteint les premières fincas et les premiers villages, on vous promettra toutes sortes de choses. On vous offrira de l'argent, des terres, tout ce que vous voudrez. Ne vous laissez pas séduire, car toutes ces promesses seront dictées par la crainte. Ce seront des présents sans valeur si vous ne gagnez pas la révolution totale et si vous ne la poursuivez pas jusqu'au bout. Bravo, professeur! Arriba, le professeur! Arriba, camarada! Tu as raison, et nous suivrons tes avis. C'est ainsi qu'insensiblement, et à leur propre insu, les muchachos avaient donné un sens nouveau à leur rébellion. Le retour au foyer avait fait place à la lutte pour la victoire totale. Andreu et Celso, eux-mêmes, qui au début ne songeaient qu'à revoir leurs parents et leurs bien-aimés, n'y pensaient plus que par intermittence. Dans le fond, ils peuvent attendre. Qu'en penses-tu, Celso ? Bien sûr, Andrucho. Chez moi, personne n'a jamais espéré me revoir avant au moins 4 ans. Ils attendront. Il vaut mieux qu'ils attendent encore 1 an, plutôt que d'être obligés de tout recommencer. Parce qu'alors, nous aurons la certitude absolue que nous serons retournés chez nous pour toujours, et nous n'aurons plus à vivre dans la crainte perpétuelle qu'un beau jour, nous serons forcés d'en repartir. C'est bien cela, Celso. Et c'est ainsi que nous agirons. Tierra y libertad, o la muerte.
Des groupes rejoignent donc la cohorte des Indiens révoltés. C'est l'occasion pour Betraven d'évoquer le sort de ces sauvages, avec des guillemets, ces crèves-la-faim, pourchassés par les milices des exploitants forestiers. Ces sauvages sont en quelque sorte un sous-prolétariat qui est bien utile aux patrons pour maintenir leur domination sur les autres Indiens. On pourra noter également, dans l'extrait qui va suivre, une évocation du travail des Indiens dans les Monterias, les exploitations forestières, par rapport à leur vie dans les communautés indiennes, avec notamment le fait que le travail à la tâche, le fait de louer leur force de travail, leur est complètement inconnu. C'est le capitalisme qui a inventé et mis en œuvre ces rapports sociaux pour maintenir sa domination.
Chaque jour, arrivaient de nouveaux groupes des Monterias les plus éloignés. Certains de ces groupes ne comprenaient que 5 hommes, d'autres 2. Quelques-uns de ces hommes étaient à l'état sauvage. Ils avaient fui de leur Monterias depuis déjà longtemps, mais ils n'avaient pu retourner chez eux parce qu'ils auraient été obligés d'emprunter les pistes et qu'ils auraient été repris aussitôt par les capatanes cesses lancés à leurs trousses ou dénoncés par les caravanes et les agents recruteurs. On aurait aussitôt signalé leurs pistes au village suivant. Et si, par chance, ils avaient pu néanmoins parvenir jusqu'à leur rancho ou à leur finca, ils auraient immédiatement été livrés. Sachant cela, les fugitifs avaient renoncé à revoir leur foyer. Ils avaient fui les Monterias pour échapper à des traitements barbares et se tenaient éloignés des sentiers et des pistes, menant une véritable vie de hors-la-loi dans les profondeurs de la jungle. Ils habitaient dans des cavernes où se bâtissaient des huttes en terre au ras du sol, à moins encore qu'ils ne vécussent dans les arbres. À coups de pierre ou de lance, ils chassaient le gibier et s'en nourrissaient. Si l'indispensable leur faisait défaut, s'ils manquaient par exemple d'amadou, d'un morceau d'acier, de sel ou de café, ils s'introduisaient nuitamment dans les oficinas et volaient ce dont ils avaient besoin. Fréquemment, des muchachos, des Monterias, avaient été rendus responsables de ces vols et châtiés en conséquence. Enfin, si malgré tout des expéditions de ce genre s'avéraient impossibles, ils s'arrangeaient pour rencontrer des muchachos travaillant dans la brousse et pour obtenir d'eux, de gré ou de force, les objets en question. La plupart du temps, les muchachos les leur donnaient volontiers, à la condition, bien entendu, de les avoir sur eux. On appelait ces hors-la-loi les salpares, les sauvages. Quand les sauvages devenaient trop nombreux,
les Monterías sur le territoire desquels ils vivaient, mobilisaient une demi-douzaine de capataces qui leur donnaient la chasse comme à du vulgaire gibier. On ne cherchait pas à les reprendre, malgré les besoins constants des Monterías en main-d'œuvre. On les abattait purement et simplement. Pour faciliter ces expéditions punitives, les chasseurs emmenaient avec eux des meutes de chiens. Ce n'était pas tellement le désir d'empêcher les rapines qui poussaient les propriétaires des Monterías, car leur chapardage n'avait pas grande importance en soi. Mais ils craignaient que, si ces délits restaient impunis, ils pussent donner un fâcheux exemple aux autres muchachos qui auraient bientôt déserté les Monterías sans solder leur compte débiteur. Ces sauvages, ces déserteurs, n'avaient guère de perspective devant eux. Ils pouvaient vivre ainsi pendant 1 ou 2 ans, et puis tâcher de retourner dans leur village avec l'espoir qu'on les aurait oubliés, eux et leurs dettes. Ils pouvaient encore changer de région et chercher du travail. Mais Monterría, Cafetal ou Finca, à tout prendre, leur sort serait à peu près le même partout. Partout où ils iraient, ils devaient s'attendre à être réduits en servages, à être opprimés et à ne pouvoir discuter les conditions de leur salaire. Il leur restait encore une possibilité, à la condition de pouvoir quitter la jungle sans être reconnus. C'était tenter de se faire admettre dans une colonie d'Indiens indépendante. Mais cela réussissait à peine 100 fois. S'ils retournaient dans une tribu de leur race, ils étaient aussitôt reconnus. Le bruit de leur retour circulait de bouche en bouche, et les rurales ne tardaient pas à les reprendre et à les livrer aux agents. S'ils se réfugiaient chez une tribu étrangère, on les considérait avec méfiance. La plupart du temps, ils ne parlaient pas la même langue. S'ils n'avaient pas le bonheur d'être admis dans une famille et de s'y marier, ils ne pouvaient recevoir de terre, ni même louer leur service, car dans ces communautés indiennes, le travail à la tâche était inconnu, et par suite, on ne trouvait pas à s'embaucher. D'ailleurs, cette éventualité se présentait fort rarement. On pouvait dire que les sauvages mouraient toujours avant d'avoir pu quitter la jungle, car la vie qui les y menait était 100 fois plus dure encore que celle des muchachos dans les Monterías. La fièvre, les tigres, les lions, les serpents, les sangliers les prenaient parfois en pitié et les délivraient de leur pénible existence. Tous les muchachos qui travaillaient dans les Monterías savaient parfaitement à quoi s'en tenir sur le sort réservé aux sauvages. Et c'était précisément la terreur qu'inspirait une telle vie qui faisait le salut des Monterías. Si l'existence des sauvages avait été un plaisir, il ne serait plus resté un seul homme dans les Monterías. Seuls les muchachos, les plus résolus, les plus farouches, avaient le courage de s'enfuir, et encore n'était-ce que pour échapper à un châtiment plus terrible que de coutume.
On s'achemine vers la toute fin du roman. La troupe des révoltés s'apprête à sortir de la jungle et parvient au premier village. C'est la fête. C'est aussi la certitude pour les insurgés de trouver à manger avec les champs de maïs et de haricots.
La dernière compagnie était arrivée. La troupe était rassemblée au complet. Des amis, des camarades appartenant à des compagnies différentes se retrouvaient enfin, s'asseyaient autour du même feu et se raconter les souffrances endurées pendant la marche dans la jungle. La gaieté éclatait de toutes parts. Les uns jouaient de l'harmonica, d'autres de la guitare. On chantait des mélodies plaintives, qui leur plaisaient sans doute parce qu'elles étaient plaintives. On dansait, on riait, on faisait du bruit. L'idée d'avoir surmonté les épouvantes de la jungle, des marais, des fondrières, déchaînait en eux une explosion de joie. C'était la réaction après la marche épuisante et les nuits humides. Avec ce village, la jungle venait de prendre fin, bien qu'elle lançât encore assez loin ses prolongements comme des tentacules. Les chemins n'étaient guère meilleurs. Par endroits, même ils étaient aussi mauvais que dans la brousse. Et puis les pluies n'étaient pas achevées. Il y en avait peut-être encore pour des semaines, mais les gouttes étaient plus fines. Déjà, vers la fin du voyage, il avait fait moins mauvais. Depuis 3 jours, il n'avait presque pas plu. Sans doute, cette accalmie allait-elle se payer largement par des averses torrentielles pendant la nuit suivante et pendant les 3 semaines qui allaient suivre. Mais dans tous les cas, ils étaient sortis de la brousse. À une 15aine de kilomètres de sa lisière, on voyait des huttes, un rancho. Puis quelques kilomètres plus loin, on allait rencontrer les premières fincas. Et enfin, mais sensiblement plus loin, ce seraient les premiers hameaux, les bourgades de Ukutsin et de Akulmeal. À partir de là, ils croiseraient de petites caravanes, des convois de mulets, des Indiens qui allaient vendre au marché les produits de leur travail. Entre ces bourgades, on aurait encore à traverser des régions désertiques et broussailleuses pendant des journées entières, mais la jungle proprement dite était finie, bien finie. Ces dangers étaient loin. C'est là que commenceraient aussi les champs de maïs et de haricots, coupant çà et là les derniers vestiges de la jungle. À mesure qu'on avancerait, les terres cultivées deviendraient plus nombreuses et finiraient par s'épanouir à perte de vue quand on arriverait aux fincas. Le maïs et les haricots, voilà ce qui donnait l'assurance que les muchachos ne mourraient pas de faim. Jusqu'au moment d'arriver à ce village, c'était la Monteria, ce qui avait fait les frais du voyage. Ce que les muchachos avaient emporté de la Harmonia pouvait même permettre de tenir pendant 3 ou 4 jours de plus. Mais voilà qu'ils allaient atteindre les fincas opulentes avec leurs immenses réserves de maïs, de fèves, de porc, de veau, de sel, de sucre et de toutes sortes de bonnes choses désirées du fond du cœur par une troupe de gaillards robustes qui depuis des mois et dans certains cas depuis des années étaient privés de tout ce dont les hommes ont besoin pour ne point trouver la vie intolérable. Car le maïs seul ne suffit pas plus que les fèves ou que de la viande de porc, même si elle est accommodée à la façon succulente dont les Indiens ont le secret. Dans les fincas, il n'y avait pas que les tortillas et les frijoles qui les attendaient, mais encore des quantités d'autres choses qui valaient la peine qu'on s'attardât. Les muchachos n'étaient ni des bandits, ni des brigands, mais une rébellion ne peut vivre sans rebelles. Et il faut aussi que les rebelles puissent vivre s'ils veulent faire une rébellion. Ce ne sont point les rebelles qui portent la faute de la rébellion ni des conséquences de la rébellion, généralement désagréables et pénibles, pour celui qui ne manque de rien. Les responsables d'une rébellion, les actes de rebelles, ce sont ceux qui croient qu'on peut impunément et éternellement maltraiter des êtres humains sans qu'ils se soulèvent.
La révolution est donc en marche. Les insurgés le perçoivent bien et ils en perçoivent également les enjeux. Tout ça alimente les discussions sur ce qu'est la révolution.
On discuta vivement pendant le conseil de guerre qui suivit l'arrivée. Mais ce ne fut point de ces lamentables délibérations comme il y en a dans presque toutes les révolutions où l'on parle et pérore sans cesse et où on parle encore à perte de vue quand le moment est venu de passer à l'action sur la manière et sur la façon dont chaque résolution sera mise à exécution. Ce sont toujours les parlottes de révolutionnaires qui finissent par causer leur ruine. Pendant les discussions, les adversaires de la révolution agissent et, tandis que les assemblées sont encore en train de discuter sur la couleur du drapeau et sur les chinoiseries des règlements à élaborer, les autres sont déjà là, qui emportent les avant-postes, bousculent les sentinelles et arrêtent les incorrigibles bavards. Heureusement pour eux, les muchachos n'étaient point de vieux révolutionnaires chevronnés et ne connaissaient ni les assemblées passionnées ni les écrits enflammés. Si leur conseil de guerre fut animé, on n'y discuta pas des balivernes habituelles. Il n'y fut pas question de programme ou d'opinion. On discuta simplement pour savoir quelle serait la compagnie qui prendrait la tête de l'avant-garde au cours de la marche qui allait se poursuivre, lorsque la situation commencerait à devenir sérieuse. La compagnie qui serait en tête avait la perspective glorieuse d'être anéantie jusqu'au dernier homme, dès que les rurales mettraient une mitrailleuse en action. et même avant d'avoir détaché les mitrailleuses des bas de leurs mulets, ils ne resteraient pas inactifs. Chacun des soldats n'avait-il pas une carabine à répétition et un colt ? Et fédéral et rural n'étaient-il pas entraînés à s'en servir ? Il n'en avait eu que trop souvent l'occasion. Certes, la discussion ne portait pas sur la gloire qui auréolerait la compagnie sacrifiée. D'ailleurs, les muchachos n'avaient pas encore le sens des hauts faits d'armes tels qu'ils sont idéalisés dans les poèmes et les histoires. Ils n'avaient pas encore l'esprit déformé par les journalistes et les rhéteurs. Il n'était pas question pour eux de gagner la gloire, mais plutôt, puisqu'ils ne possédaient pas d'armes, d'en conquérir le plus possible sur l'ennemi. Aucun des muchachos n'avait jamais lu un article révolutionnaire, ni étudié l'histoire des révolutions. Ils n'avaient jamais assisté à une réunion publique, et jamais entendu parler d'un programme. Mais tous possédaient un instinct naturel qui leur disait « Si tu possèdes des armes et si tes ennemis n'en ont point, c'est toi qui gagneras la révolution, ou la rébellion, ou l'émeute, ou la grève, quel que soit le nom que tu donnes à l'action qui libérera le prolétariat. » Car, en fin de compte, les vraies révolutions n'ont pas seulement pour but une amélioration des salaires, ou le partage des biens, ou la conquête de certains privilèges. Elles tendent surtout vers la justice, sans phare ni masque. Pour les muchachos, la révolution signifie provisoirement la fin de leur servitude, de leur esclavage et des mauvais traitements, et rien d'autre. Depuis son enfance, chaque muchacho avait entendu dire, puis constaté, que celui qui porte un revolver à sa ceinture ou une carabine en bandoulière a le droit de réduire l'Indien en servitude, de l'exploiter, de le maltraiter et de lui imposer sa volonté. Et comme lui, l'Indien, le prolétaire n'a point de revolver, force lui et de soumettre et se laisser malmener. S'il a le malheur d'ouvrir la bouche pour protester, la crosse du revolver s'abat sur sa tête, à moins que celle de la carabine ne lui défonce les côtes. Il était donc tout naturel que, pour les muchachos, la conquête des armes se confondît avec la victoire de la révolution. Arracher leurs armes aux ennemis devenait le symbole de la révolution. Or, c'était précisément la compagnia de Tetz qui devait soutenir le premier choc avec ceux qui possédaient des armes. Il était évident que les hommes de la première compagnie seraient anéantis aux trois quarts. Mais un dernier quart subsisterait, et ce dernier quart aurait droit aux armes conquises de haute lutte. Les muchachos étaient comme ces détenteurs de billets de loterie qui espèrent toujours gagner le gros lot. Eux espéraient fermement faire partie de ceux qui ne seraient pas tués et qui s'armeraient. Les discussions pour savoir quelle serait la compagnie désignée pour le premier choc étaient donc animées. Mais el general El Celso y mirent fin promptement. « Nom de Dieu, de bande d'idiots !» vociféra El General. « Êtes-vous donc une bande de vieilles femmes et de seuls pleureurs pour discuter ainsi ? Nous étions la première compagnie, nous la resterons, et maintenant, foutez-nous la paix !» Mais Celso ne trouva pas sa parole pourtant énergique suffisamment éloquente. Il se leva et prit à son tour la parole. « Bon Dieu d'enfant de garce ! Celui qui n'acceptera pas ce que vient de dire El General, celui la recevra un bon marron de mes mains. Est-ce compris ? Nous sommes en révolte, n'est-ce pas ? Eh bien, quand on est révolte, on ne fait pas de discours, on agit. N'ayez crainte, vous entrerez tous dans le bal, dans 6 jours au plus tard. Ne vous en faites pas, la moitié d'entre vous aura cessé de vivre. Biba ! Bravo ! S'écrièrent les muchachos. Et quelques-uns ajoutèrent, tu as raison Celso, mais l'autre moitié aura des fusils et des cartouches. Tierra y libertad !
Voilà, nous sommes arrivés au bout de La révolte des pendus de Betraven, un roman au plus près des exploités, un roman qui s'inscrit également dans le souffle de l'histoire, dans une révolution mexicaine qui a fortement marqué le mouvement ouvrier européen et français juste avant le déclenchement de la grande boucherie de 14-18. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à découvrir ou redécouvrir Betraven. Aujourd'hui, ce sont Sarah, Mélissa et Michel qui nous ont accompagnés au travers de la lecture d'extraits de La révolte des pendus. Je vous informe par ailleurs que ce livre, La révolte des pendus de Betraven, est disponible dans la bibliothèque du Lag, le lieu autogéré du bassin minier. La musique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, c'est El Pueblo Unido du groupe The Undirty Sound. The Undirty Sound, c'est en fait Djibril et Faïda qui nous proposent des morceaux avec des inspirations à chercher du côté du dub, de leurs origines africaines et de l'Amérique du Sud. C'est évidemment de la musique libre, comme toujours sur microrebelle.fr. Je vous donne donc rendez-vous pour d'autres émissions micro-littéraires. Je ne peux pas encore vous faire d'annonce. Le plus simple, c'est de consulter le programme sur microrebelle.fr. Et je vous laisse maintenant de nouveau en compagnie de Pipo Pegaroro. Au revoir et à très bientôt sur microrebelle.fr.
Que se sentar comigo sem muito pra fazer, dizendo toda mesa é abrigo aos que costumam saber. Quem diria seu nome, o que podia parecer, metade alguém que já conheci. Entre o dever e o devir, entre os olhos, entre tantos, entre os copos, um selim, seu rosto pouco sério, anseio aos que em volta recheio, pontos sem critério, focos que abrigam seus meios. Quem diria se esconde quando quer se render, todo o seu mistério aos que possam merecer. Entre os olhos, entre tantos, entre os copos,